Moi pour ce soir, mais aussi pour ces 40 ans. Depuis tout ce temps.
Thank you. comme ça noir. Faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineuse. La solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi, quasiment, de 9h30 à 10h30. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, un patchwork de brèves de notre revue de presse anti-psychiatrie, donc concernant aujourd'hui... l'état de la situation psychiatrique actuelle et depuis un an. En effet, il y a un an, il y avait 75 soignants qui publiait une tribune qui s'appelait le SOS des psychiatres, lancée à la Première Ministre. Un appel intitulé « Créons des postes pour éviter le naufrage ». S'il y a un effet, disent-ils dans leur tribune, un avenir très sombre nous attend. Alors, évidemment, très sombre pour les psychiatres. Dans une tribune, donc, alors ça date d'il y a un an à peu près, ça date du 30 mai 2022. En tout cas, l'article concernant ce SOS des psychiatres, le texte lui-même date de fin avril. Oui, bon, un extrait. Un dimanche d'avril, aux urgences d'un grand hôpital de la région parisienne, 18 patients attendent une prise en charge psychiatrique, tous dans des situations graves imposant une hospitalisation immédiate, crise suicidaire, bouffée délirante avec agitation, état dépressif extrême, etc., pour accueillir, évaluer, rassurer, surveiller, soigner, contacter les familles et les hôpitaux pour ces 18 patients. Un psychiatre et un infirmier et des locaux insuffisants, ce débordement des capacités d'accueil se traduit par des heures et des jours d'attente sur un brancard ou sur une chaise, dans un couloir, des fugues, des agitations, voire des bagarres et forcément des professionnels débordés et épuisés, ne souhaitant qu'une chose, changer de poste, d'hôpital, voire de métier. Et signataires de commenter par l'exclamation suivante « Quel gâchis !» Donc la situation d'engorgement des urgences psychiatriques s'aggrave d'année en année, en psychiatrie d'adultes comme en pédopsychiatrie. Alors, depuis la pandémie, il y a eu une accélération de ce principe à cause de l'augmentation très forte des besoins de soins psychiatriques, d'une part, et de la fermeture de très nombreux lits dans les services spécialisés par pénurie de personnel soignant, d'autre part. Est évoqué aussi dans cette tribune... le déficit de vocation, la perte de sens et la pression du temps et des économies à réaliser qui génèrent un cercle vicieux de la pénurie. C'était le 30 mai 2022. Oui, c'est ça. Tribune 75 soignants Le Parisien. Et donc ça avait suscité une réaction à l'époque qu'on pouvait lire dans le 9 juin 2022 dans Basta Mag, Basta Média Libre, Observatoire des Multinationales. avec cet article par un collectif qui n'est pas qui ne donne pas son nom, mais dont les signataires sont sur le site Comme des fous. Enfin, je ne l'ai pas ici, le nom en tout cas, mais on peut le trouver donc sur le site. Une tribune du 9 juin qui est intitulée « Nos vies valent plus que leur psychiatrie. Au-delà des moyens, il faut des alternatives à l'hospitalisation. La psychiatrie publique est en crise, des médecins demandent plus de moyens. Dans cette tribune, des personnes et collectifs revendiquent un changement bien plus profond de la psychiatrie en France dans le sens des alternatives à l'hospitalisation. » Alors c'est aussi une lettre à la Première Ministre. On se doute qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses, mais... Pour beaucoup d'entre nous, prononcer cette phrase à certains moments de notre vie nous aurait coûté notre liberté. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous depuis la marge de la société et du discours public. Nous, les fous folles, les survivants et survivantes, les psychiatrisés, les citoyens et citoyennes vivant avec un handicap psychique, et leurs alliés, celles et ceux qui ont partagé nos vies, nous ont aimés, nous ont soutenus, ici, nous souhaitons réagir à une tribune de 75 professionnels de la psychiatrie publiée le 30 mai 2022 dans le journal Le Parisien et titrant « Créons des postes pour éviter le naufrage ». Nous allons rebondir sur l'analyse qui est faite de la situation de la psychiatrie française et proposer une alternative. Nous témoignons notre soutien aux nombreux et nombreuses professionnels que l'on n'entend pas et qui, dès 2018, se sont mis en grève pour dénoncer la déshumanisation des soins. Mais plus que tout, nous souhaitons être entendus parce que notre parole est invisibilisée quotidiennement, parce que de la pluralité de nos vécus rejaillit une même envie de participer à la vie démocratique. Nous voulons sortir du simple rôle de bénéficiaire des services de santé mentale qui nous est assigné pour trouver ensemble des solutions à nos besoins en partant du constat que le besoin à invoquer d'hospitaliser les gens qui vont mal en psychiatrie n'en est en réalité pas un. Personne ne veut finir à l'hôpital. Nous souhaitons interroger le processus de psychiatrisation de nos vies dont l'espérance est réduite en moyenne de 15 ans, en partie à cause des effets des médicaments qu'on nous impose en l'absence de toute base légale. Si tout le malaise social ne relève pas de la psychiatrie, nous sommes trop nombreux et nombreuses à être liés à elle par la contrainte. Que celle-ci soit explicite ou implicite. Il y a parmi nous des personnes qui souffrent et ont besoin d'aide, mais il y a aussi des personnes qui, encore en 2022, sont maltraitées parce qu'elles sont différentes. Il y a d'autres communautés qui se battent pour quitter le carcan de la psychiatrie qui ne veut pas les lâcher. La psychiatrie qui ne veut pas les lâcher. Abolir la contention et l'isolement. L'hospitalisation est tristement devenue une menace pour celles et ceux qui en ont fait l'expérience ou celles et ceux qui seraient tentés de mettre fin à leur jour. Si pour beaucoup ce sont des heures et des jours d'attente sur un brancard ou une chaise dans un couloir, l'usage veut qu'on nous retienne de partir en nous attachant avec des sangles de contention. Non, ce recours à la contention et aux chambres d'isolement n'est pas en hausse parce que les soignants peuvent parfois être dépassés par la situation. La contention et l'isolement sont redevenus des piliers de la pratique psychiatrique française et décider de leur abolition serait un progrès incontestable. Il n'y a pas si longtemps, on nous expliquait que c'était de la réanimation psychique. Nous formulons l'hypothèse aujourd'hui que cette réanimation ne sera pas utilisée sur les milliers d'urgentistes et professionnels de santé en épuisement professionnel. Non, c'est une logique de caste. Il y a nous, les malades mentaux et mentaux, aux tares génétiques et cérébrales, et le reste des gens normaux. Nous refusons de réduire nos identités à des maladies ou de la souffrance. Nos vies ont de la valeur et même si elles peuvent parfois comporter des passages douloureux, des opportunités et des relations gâchées, et même si parfois On en porte encore les marques. Nos vies sont aussi remplies de moments uniques, d'émotions intenses et de créations. Ce n'est pas notre folie qui fait de nous des personnes à part, mais c'est le résultat de choix de société. Madame la Première ministre, il nous est insupportable de voir les discussions nécessaires sur la santé mentale être accaparées par de faux débats et de fausses informations. La santé reste un droit fondamental aussi. Nous voulons témoigner notre ras-le-bol de cette psychiatrie française avec qui il est impossible de discuter, impossible de construire, impossible de changer. Cette psychiatrie qui compare une torture psychologique à de la réanimation, qui en 2019 cherchait encore à distinguer les vrais homosexuels des faux et des fausses, qui, il y a 6 mois, propageait des théories complotistes transphobes dans un congrès soi-disant scientifique. Alors là, il y a des références. C'est Congrès français psychiatrie, le site congrèsfrançaispsychiatrique.org. L'état de la psychiatrie dans le monde est mauvais, c'est vrai, mais ce qui nous choque en France, ce n'est pas le mauvais niveau de nos soins de santé mentale, c'est l'absence de volonté d'amélioration ou de volonté politique. Alors que d'autres pays ont assumé d'autres choix respectueux des droits humains, démontrant que la maltraitance institutionnelle n'est pas une fatalité ou une pure question de moyens. Les alternatives à l'hospitalisation, contraintes ou non, existent et sont même expérimentées en France dans quelques villes. Augmenter les budgets pour déployer plus de mauvaises pratiques et faire rêver les personnes avec des fables neuropharmacologiques est tout ce que la psychiatrie française propose et fait. Mettre fin aux pratiques discriminatoires. Nous souhaitons vous rappeler les engagements que notre pays a pris en ratifiant en 2006 la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap de l'ONU, publiée au Journal officiel en 2010. Nous vous renvoyons au texte portant sur son application en matière de santé mentale. Nous souhaitons également citer le rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, qui en 2019 définissait que le bien-être et la bonne santé mentale ne peuvent se définir par la seule absence de problèmes de santé mentale, mais bien par l'existence d'un environnement social, psychosocial, politique, économique et physique qui donne aux personnes et aux populations les moyens de vivre dans la dignité, de jouir pleinement de leurs droits et de réaliser leur potentiel dans des conditions d'égalité. À cette fin, il faut créer des conditions favorables qui valorisent à la fois le lien social et le respect grâce à des relations individuelles et sociales saines et non violentes tout au long de la vie. Fin de la définition. Pour promouvoir efficacement la santé mentale, il faut mettre fin à la discrimination tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements de soins connexes. Le rapporteur spécial constate avec préoccupation qu'au niveau mondial, le domaine de la santé mentale reste encadré par des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires qui sont autant d'entraves aux mesures efficaces de promotion de la santé mentale que de nombreuses parties prenantes progressistes tentent d'engager. Nous portons ce collectif écrit. Nous portons ici haut et fort sa conclusion. Le manque de volonté des responsables politiques de s'investir pleinement en faveur de la santé mentale et du bien-être alimente ce cycle de discrimination, d'inégalité, d'exclusion sociale et de violence. Les personnes qui ont le plus besoin d'une action de promotion de la santé, à savoir celles et ceux en situation de handicap psychosocial, cognitif ou intellectuel, sont toujours laissés de côté. La communauté mondiale devrait donner la priorité à des systèmes durables qui permettent de promouvoir la santé mentale selon une approche fondée sur les droits de l'homme. Les êtres humains, dans toute leur diversité, sont titulaires de droits et ne devraient pas être considérés comme des sujets à diagnostiquer ou des malades à charge. Les politiques modernes de santé mentale devraient favoriser l'autonomie, la participation active et la résilience de chacun, y compris des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Fin de citation. Alors, par exemple, sur le terme d'autonomie, ce sont des termes qui restent aussi encore à définir de façon précise et qui peuvent faire l'objet de débats. Je ferme ma parenthèse et je termine l'article donc, qui est la tribune d'un collectif de personnes concernées en réponse à un collectif de psychiatres, de 75 psychiatres, par rapport à une situation critique de la psychiatrie, en tout cas l'année dernière, le fin du mois de mai, début du mois de juin, l'année dernière en 2022. Quand tout va mal, on ne risque rien à changer. Madame la Première Ministre, donc c'est toujours sur le modèle de la première tribune, c'est-à-dire lettre ouverte au Premier ministre, nous pensons que vous pouvez, à l'instar de votre homologue norvégien, engager un changement en vous appuyant sur les besoins des citoyens et citoyennes plutôt que les prophéties des vendeurs de vent. Madame la Première Ministre, nous les laissés pour compte des politiques de santé, nous réclamons que vous et votre gouvernement engagiez un processus démocratique pour que nous puissions enfin avoir des lois qui aident et respectent les droits humains. Nous demandons la mise en application des conventions internationales et l'abolition immédiate de la contention, de l'isolement et de toute pratique qui ne soit pas basée sur le consentement libre et éclairé. Que la reconnaissance des droits humains s'accompagne d'une judiciarisation qui permettra de rendre ce droit effectif. À ce titre, nous demandons que les médecins psychiatres et les professionnels paramédicaux relèvent de leur conseil de l'ordre respectif selon les modalités ordinaires. Bon, j'ai pas trop bien compris la phrase, mais je poursuis. Il est grand temps de mettre fin à ce régime d'exception qui veut que les médecins du cadre public et les experts et expertes assurant une mission de service public, article L4124-2 du Code de la santé publique, ne puissent pas être traduites en cas de faute ou de manquement grave à leur déontologie directement devant les juges ordinaux. Que les stratégies de santé mentale soient co-construites par le monde professionnel et usager. Co-construite. La démocratie sanitaire ne permet pas de participer aux politiques qui nous concernent. Aussi, nous souhaitons que la santé mentale et le bien-être forment une compétence qui vous soit directement rattachée au détriment du seul ministère de la Santé. Nous souhaitons également que les compétences de la DILCRA soient étendues pour y inclure les discriminations sanistes, psychophobes, folophobes, notamment au sein des systèmes de santé publique. Alors la DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Ce collectif poursuit. Nous réclamons que la France applique les préconisations de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le handicap en matière de psychiatrie, ainsi que celles de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, du Comité de prévention des peines et des traitements inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne en matière de santé mentale. Conformément à cela, nous demandons que la France abandonne dans sa politique de santé mentale le modèle biomédical de la maladie mentale au profit de celui du modèle inclusif, non discriminant, de la Convention des Nations Unies sur le handicap. Qu'à cette fin, le monde professionnel ait pour mission la mise en application des politiques de santé de l'OMS sous l'autorité de la santé publique. La santé mentale de la population est un enjeu trop important pour le laisser entre les mains de spécialistes. Et pendant la pandémie, nous avons vu les ravages d'une politique de santé qui se cantonnait à un aspect limité de la santé plutôt qu'une approche globale. La santé publique est un champ pluridisciplinaire qui est à même de coordonner des stratégies de santé pertinentes et conformes aux droits humains. Cependant, l'usage qui est fait de la santé publique en France montre aussi ses forts risques de dérive et mésusage. Notre place est donc nécessaire à la fois comme partenaire, mais aussi au sein d'un système démocratique de garde-fous. Nous sommes conscients et conscientes de la peur que peut générer le changement. Les personnes vues comme anormales peuvent être aussi saisies de panique face au sort qu'on leur réserve, mais nous choisissons de nous saisir de cette occasion pour vous rappeler les opportunités devant vous. S'il y a une chose que nous avons apprise dans nos moments de douleur, c'est que quand tout va mal, on ne risque rien à changer. Donner une chance à la démocratie en santé. Voilà. Donc, voilà, c'est un discours... on va dire un peu moins radical que celui qu'on pourrait avoir, nous, à l'entonnoir, mais c'est une des revendications. Donc, c'était, il y a un an, donc, une tribune de revendication d'un groupe de personnes concernées. Alors, nous sommes un an plus tard, et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pas grand-chose. On a toujours les soignants qui... Eh bien oui, qui sont à cran, hein, on peut dire. Avec, par exemple, cet article d'un journal... un grand public, hein, Ouest France. Un article du 26 avril 2023 de Philippe Gambert, Samuel Nora et Jérôme Lourdet. Alors, ce titre est la parole d'une soignante, d'une infirmière. Comment seul apaiser les angoisses des patients ? La psychiatrie publique manque de soignants. Alors là, sortons nos mouchoirs. La psychiatrie reste le pan mal aimé et souvent mal compris de l'hôpital. En première ligne, face aux fractures de la société, elle est fragilisée par le manque de moyens et de soignants. Mais elle tient bon. C'était le chapeau. Passons au corps de l'article, qui n'est pas très grand, hein, parce que, en fait, la suite de l'article que je vais vous lire aurait été intéressante parce qu'elle parle aussi des urgences psychiatriques dont on a parlé tout à l'heure, mais au sein de l'établissement sartois dont il est question ici. Mais voilà, cet article était réservé aux abonnés, donc on n'en aura que une partie. Boum, 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 il est près de minuit ce jeudi 13 avril 2023. Des coups sourds répétés résonnent dans cette unité fermée de l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques qui dépend du CHU de Nantes, Loire-Atlantique. Ah oui, non, c'est pas dans la Sarthe, c'est dans la Loire-Atlantique, excusez-moi. Un homme donne des coups de tête dans la porte de sa chambre d'isolement. « Nous allons devoir intervenir », dit Marion Brun, infirmière de coordination, cadre de santé. « La seule solution est la contention ». Alors, non, c'est pas elle qui dit ça, c'est l'article. La seule solution est la contention. C'est donc les journalistes qui écrivent cette phrase. N'allez pas imaginer qu'il puisse y avoir des alternatives. La contention, c'est-à-dire d'attacher le patient qui se laisse faire. Il était en demande. Alors ça, c'est les soignants qui disent ça, et c'est... le jargon habituel hein, de personnel hospitalier en demande. On parle à la place de la personne concernée. Toutes les équipes de l'hôpital Saint-Jacques connaissent bien cet homme qui n'a pas encore la quarantaine mais vit là depuis 20 ans. Il a une forme d'autiste la plus sévère. Sa présence au sein d'un hôpital psychiatrique s'est imposée, faute de structures adaptées en nombre suffisant pour ce type de pathologie. Alors, déjà, est-ce que l'autisme est une pathologie ? Ça, bon, c'est une question, mais surtout, c'est vrai que s'il n'y a aucune structure adaptée... J'allais faire presque un mauvais jeu de mots en disant où sont les femmes, c'est-à-dire les foyers d'accueil médicalisés, où effectivement des gens qui sont atteints d'une forme d'autisme les plus sévères peuvent être accueillis et suivre des animations, des ateliers, des donc où l'on est, on serait beaucoup plus à l'aise, en tout cas, il serait beaucoup plus à l'aise que dans un hôpital psychiatrique. Je reprends la lecture de mon article. Cette nuit-là, le personnel enchaîne les interventions critiques. Les moments de tension, de violence ne sont pas rares en psy. Alors la violence, sans vraiment dire d'où elle vient, elle descend comme un nuage de brouillard diffus sur le service. La nuit, dans chaque service, il y a deux infirmiers. Mais pour chaque intervention un peu délicate, le cadre de santé fait appel à des renforts. Une forte présence peut être dissuasive. Alors là, je rouvre une parenthèse. On peut constater bien sûr, bien évidemment, que les relations sont des relations de rapport de force dans ces établissements. Je ferme ma parenthèse. Des collègues, souvent des hommes, des unités voisines, sont appelés. Dans ces cas-là, il ne peut rester dans une unité qu'une seule infirmière de garde. Comment seul apaiser les angoisses des patients et réagir si une autre crise violente apparaît alors ? S'interrogeaient en janvier les personnels en grève pour alerter sur le manque d'effectifs et les arrêts maladie pas assez ou mal remplacés. Deux fois moins de psychiatres dans la Sarthe. Alors là, oui, on passe dans la Sarthe. La spécialité souffre d'une criante iniquité de territoire, déplore Céline Lagray, directrice de l'établissement de santé mentale de la Sarthe, EPSM, confrontée à une sévère pénurie de soignants. Ces trois dernières années, le plus grand établissement de soins psychiatriques des Pays de la Loire a enregistré 12 départs de médecins contre 4 arrivées. Soit les deux tiers de départ. Aujourd'hui, la moitié des postes de psychiatres ne sont pas pourvus. Depuis 2018, une mission interministérielle... pilotée par Matignon, tente de pallier cette carence qui gangrène les régions moins attractives. En vain. Alors là, on remarquera la grande efficacité des missions interministérielles. Autre difficulté, la psychiatrie affiche un faible nombre d'universitaires susceptibles d'attirer des étudiants. La spécialité s'avère la moins choisie par les futurs médecins. Explication, comme le médecin généraliste, le psychiatre a un côté couteau suisse. Il doit traiter une pathologie souvent liée à des problèmes de société qui s'accentuent. Précarité, délitement des liens sociaux, solitude, pression du travail, estime Céline Lagray. C'est moins cocooning que d'autres spécialités où on effectue souvent le même acte au même endroit. Et c'est un engagement de suivi des patients sur le long terme. Voilà, donc on revient à ce déficit de vocation pour travailler dans le secteur de la psychiatrie publique. Alors, là aussi, on pourrait opposer donc à cette... À ces plaintes hein, des patients, des soignants, une certaine position des personnes concernées, des personnes psychiatrisées, et qui sont orientées vers la pérédance bien souvent. Alors, c'est un article de santémentale.fr du 26 avril 2023, intitulé « Quand les patients co-construisent les soins d'apaisement ». Au sein d'une unité hospitalière pour adultes, patients et soignants ont imaginé un espace d'apaisement prolongé par un passeport d'apaisement. Développer des alternatives aux mesures d'isolement et de contention est un enjeu majeur en psychiatrie. Dans une dynamique d'ouverture des portes d'une unité de soins pour adultes, l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord, Epsilon, a co-construit avec les patients des dispositifs de soins pour prévenir les situations de tension et de crise. C'est ainsi qu'en 2021, un espace d'apaisement a été pensé avec les usagers, puis installé dans l'unité. Cette pièce, calme, confortable, équipée de matériaux multisensoriels favorisant le bien-être, a pour objectif d'identifier et réguler le niveau de tension dans le service, d'expérimenter une approche sensorielle qui permet au sujet de se retirer, se rassembler, mettre à distance ses angoisses et diminuer sa tension, se relaxer, prévenir et diminuer les passages à l'acte auto ou hétéro-agressif, et de favoriser l'appropriation de moyens d'apaisement au travers de l'expérience afin que la personne identifie ses propres ressources, transfère ses acquis au quotidien et développe son autonomie. En pratique, les usagers accèdent à cet espace sur la base du volontariat et de manière précoce en amont de la crise. À leur demande, ils y sont accompagnés par un soignant. On observe que les patients se saisissent de ce dispositif et parviennent avec l'aide des soignants à désamorcer les états de stress. Pour potentialiser ces bénéfices, plusieurs prolongements ont été imaginés. Un passeport d'apaisement a été ainsi conçu pour permettre une auto-évaluation des éléments de la crise et de sa résolution. Les usagers relèvent leurs ressentis avant et après chaque séance. L'équipe conçoit actuellement un plan d'apaisement conjoint sous la forme d'un contrat écrit pour formaliser les soins d'apaisement individuels souhaités. Nécessitant un engagement commun, il a pour effet de soutenir une meilleure connaissance et acceptation des troubles et de favoriser l'empowerment, capacité d'agir. Une étude d'impact est en projet pour évaluer plus finement les bénéfices cliniques et valider les différentes dimensions de cette action. Contact Béatrice Nicolas, IPA. Alors, béatrice.nicolas@ch-epsilon avec un y.fr. Et d'autres qui sont E. Aubry, ergothérapeute, J. Boutet, V. Jambu, infirmier. Donc, c'était un article de santémentale.fr, un journal donc spécialisé. Eh bien, nous allons écouter une chanson maintenant d'un groupe, le groupe Wheel, la roue, ou The Wheel, je sais plus. Et donc le morceau s'intitule Emmanuel.
fasse pénétrer ma pourriture jusqu'à tes tréfonds. Puisses-tu te putréfier sur place pour 1500 générations, crever d'un cancer dégueulasse du côlon.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous écoutons donc The Wheel. Et nous poursuivons notre revue de presse. Notre revue de presse sur la psychiatrie, critique de la psychiatrie. Avec un article de Libération du mardi 25 avril 2023 et sur le programme Tapage qui a été mis en place à Villeurbanne depuis 2021 et qui est financé par l'État et qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s'engager sur des chantiers encadrés par des éducateurs, un tremplin pour trouver un logement ou une prise en charge de leurs addictions. Alors addiction, addict, c'est un anglicisme pas très joli qu'on pourrait remplacer par dépendance ou dépendant, mais c'est écrit comme ça. Donc l'article s'intitule « Jeunes addicts, avec le travail à la journée, on tente de leur redonner confiance ». Alors qu'est-ce que c'est les tapages ? Les tapages, c'est le programme « Travail alternatif payé à la journée ». Voilà à quoi correspond l'acronyme « tapage ». Qui aide les jeunes précaires et addicts avec des dispositifs qui sont aussi des dispositifs de réduction des risques, mais en même temps d'approche comment on peut appeler ça pour ne pas appeler ça réinsertion. Enfin, voilà. Quelque chose qui est de remettre au cœur de la société. Alors, je peux commencer la lecture de l'article par Maïté Darnaud, envoyée spéciale à Villeurbanne. Elle est émue et ne cherche pas à le cacher. Vous nous avez bien aidés. Ne lâchez pas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Lance Véronique Césarini aux quatre jeunes qui l'entourent. Timbre de voix râpé et autorité tout en douceur, cette brune de 47 ans est responsable d'immeubles dans le quartier Saint-Jean à Villeurbanne, dans le Rhône. Durant près d'un an, elle a accompagné dans ce quartier populaire de la banlieue de Lyon, où elle est logée, les recrues du programme Travail alternatif payé à la journée, tapage. Destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en errance ou en situation de précarité et sujet à des conduites addictives, il leur permet de travailler quelques heures payées dans la foulée. Ce mardi est le dernier jour des tapageurs aux côtés de Véronique Cesarini. Leur prochaine mission les enverront dans d'autres quartiers dont les logements sont gérés par son employeur. Est Métropole Habitat, bailleur social rattaché à la métropole de Lyon. La responsable d'immeuble est allée présenter Tapage à ses collègues pour les convaincre d'accompagner le programme. Au fil des mois, elle a découvert des jeunes épatants, bosseurs, gentils, volontaires et qui ont un passé impressionnant pour leur âge. Ils ont envie de s'en sortir, dit-elle, reconnaissant un a priori de départ. J'avais l'image des petits jeunes qui n'avaient pas envie de bosser et en fait ce n'est pas du tout ça. L'histoire, dans bien des cas, est plus complexe. Les failles profondes, devenues invisibles à force de se diluer aux marges de la société. On tente de leur redonner un bout de confiance dans un bout de système. Même s'ils sont très jeunes, ils sont en rupture depuis très longtemps, résume Marion, éducatrice spécialisée et responsable tapage dans l'association Opelia Aria. La majorité d'entre eux ont subi des défaillances familiales et ont eu affaire à l'aide sociale à l'enfance, ASE. Puis il y a la rue, il y a eu la rue, les squats, la manche, la débrouille, et les prods, des psychotropes légaux et illégaux, dont la consommation les encage en entretenant le mirage d'une pratique festive et maîtrisée. Tapage permet d'aborder librement le sujet et de s'atteler avec pragmatisme à l'enjeu de la réduction des risques. Ce concept est arrivé tardivement en France. L'entrée était très médicale il y a encore 10 ans et il n'y avait quasiment rien pour les jeunes entre 18 ans à la fin de l'ASE et 25 ans au début du RSA, explique Jean-Hugues Morales, délégué national de Tapage France. Le travail à la journée constitue donc une réponse immédiate à des besoins immédiats. Importé du Québec et initié en 2012 à Bordeaux, ce programme pilote a été inclus en 2018 par l'État dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Depuis 2020, la manne publique a permis une explosion du nombre de territoires concernés, passant d'une vingtaine à près de 70, incluant l'outre-mer, en partenariat avec des opérateurs locaux. À Lyon, l'association Opelia Aria a lancé l'appel à l'été 2021. Une trentaine de jeunes se relaient sur les chantiers. On fait tourner pour qu'ils en aient au moins un par semaine. Ils ont tous besoin d'argent et on fait les groupes en fonction des envies, explique Marion. Les tâches à accomplir sont accessibles à tous plutôt que présentées comme ne nécessitant aucune qualification. Pas question de remettre en échec les jeunes ou de les renvoyer à l'image qu'ils ne sont que des punks à chiens, souligne l'éducatrice. Le départ après un casse-croûte et le retour pour la paix du soir se font depuis le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue de Lyon ou depuis le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Villeurbanne. Ça permet de démystifier les blouses blanches. Ils auront déjà vu des visages pousser la porte d'un lieu de soins, souligne Marion. Des jeunes viennent en mode travail, d'autres voir des copains et avoir de l'argent, ou pour parler de ce qui ne va pas. Il n'est pas interdit de consommer pendant les chantiers, mais un certain nombre essaient de s'abstenir. Ils se testent pour voir combien de temps ils peuvent tenir quand personne ne les contraint, alors ils se connaissent mieux et c'est déjà ça de gagner, dit Marion. À Saint-Jean, Véronique Cesarini fait son topo. Une équipe va retirer les déchets coincés dans une haie d'immeuble, une autre va nettoyer une cage d'escalier. Recrue récente, Angelina, 20 ans, reste à l'extérieur. Depuis un mois et demi, les chantiers lui permettent de s'occuper, d'éviter de taper de laquais en journée et de lui donner plein d'expériences professionnelles. La jeune femme sniffe de la kétamine, parfois seule, parfois avec des amis. Le regard des autres agace celle qui a complètement lâché l'école en fin de troisième. Des patrons ne veulent pas nous prendre parce qu'on n'a pas la bonne dégaine, mais on est peut-être ceux qui veulent faire plein de choses. En 2020, elle s'est retrouvée à la rue, relogée puis employée dans une entreprise de logistique. Elle a perdu ses revenus quand cette dernière a fait faillite l'entreprise l'été dernier. Depuis, elle touche environ 465 euros par mois d'allocation jeune majeur qui prolonge la prise en charge de l'ASE. Ghost fait partie des anciens de Tapage. Le jeune homme, 26 ans, tatouage sur le visage, y participe depuis un an. J'étais à la rue, ça m'a grave aidé, ça m'a apporté de quoi survivre, puis via une autre association, j'ai trouvé un logement. Aujourd'hui, ça m'aide à boucler les fins de mois. Ghost touche 800 euros de RSA. Originaire du Vaucluse, il a grandi en foyer. À 17 ans, il se balade en France, en Espagne, en Tunisie, en Pologne. Celui qui se voit comme un voyageur sourit. « Je me suis rangé, j'ai rasé ma crête. » Ce politox confesse son péché mignon, la cocaïne injectée. Une consommation dont il parle beaucoup avec Gilles Pénavert, éducateur et chargé de mission à Opelia Aria. Les encadrants mettent aussi la main à la pâte. On n'est pas chef de chantier ou éducateur technique, on est côte à côte. Le but n'est pas de faire de l'insertion professionnelle. Tapage est un levier, un support pour la mise en place d'un accompagnement. Détaille Gilles Pénavert, chiffon à la main. Matteo nettoie une rampe avec lui. La conversation passe de ses papiers d'identité à refaire à son dossier pour un logement. On peut aussi discuter de ce qu'on a fait le week-end, dit le jeune de 21 ans, logé en foyer d'urgence. Motivé pour reprendre une activité professionnelle, Matteo n'a pas bu d'alcool depuis des mois et essaie de consommer avec modération du cannabis. « Il y a des moments où je vais bien et je ne vais pas beaucoup fumer, » dit-il. « Mais si j'ai un coup de mou, je ne m'arrête plus. » Lyon, Genève, Bordeaux, Valentin, 23 ans, a navigué de squat en squat. Après avoir eu pas mal de problèmes avec l'héroïne, il a décidé, il y a 6 mois, d'arrêter d'acheter de la coke. « J'arrive à passer une journée sans fumer un joint, mais l'alcool, ça reste difficile. » Placé en famille d'accueil à 12 ans, puis en foyer, il a vite fugué pour partir avant qu'on lui claque la porte. À Lyon, il a vécu dehors, entre guillemets dehors, jusqu'en septembre. Il y a un moment où j'ai été dépassé par les choses qui me sont arrivées, résume ce bavard pour qui les comportements qui vrillent sont autant de moyens de se protéger de l'indifférence des gens. Aujourd'hui, Tapage permet à 44% de ces jeunes participants de résoudre leurs problèmes avec la justice, à 52% d'entre eux de retrouver un logement et à 72% une prise en charge en addictologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reprise de contrôle des 30% restants, précise Jean-Hugues Morales. On offre une possibilité de rebond. Dans quelques mois, Ghost devrait partir en cure. Un projet un peu angoissant. Pourtant, quand on lui demande où il sera dans 10 ans, il réagit du tac au tac. Au Pérou ou en Bolivie, c'est mon rêve d'en faire le tour en camion. Sur le siège passager, il y aura son chien, Punky Brewster. Voilà, donc un dispositif nouveau, mis en place depuis quelques années. Et là, on peut finir avec l'interview du secrétaire général d'Addiction France, Hervé Martini, toujours par Libé. Hein. Alors, interview intitulée « On ne peut pas avoir une politique uniquement basée sur la répression ». Face aux usages de drogue, Hervé Martini, secrétaire général d'Addiction France, prône une démarche d'aller vers les consommateurs. Face, crack, héroïne, opioïdes. En France, on compte 342 000 consommateurs problématiques de drogues dures. Problématique ici, c'est en italique entre guillemets. Selon le rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publié en 2022, à l'image du programme Travail alternatif payé à la journée, TAPAGE, qui aide les jeunes précaires et addicts, de nombreux dispositifs visent à réduire les risques sanitaires et sociaux liés à l'usage des drogues. Tous reposent sur un même principe, la réduction des risques et des dommages. Introduit dans les années 80 après l'apparition du VIH, il ne peut être remplacé par une politique répressive, selon Hervé Martini, addictologue et secrétaire général de l'association Addiction France. Sur quel levier, alors le journaliste pose la question, sur quel levier repose la réduction des risques et des dommages ? Réponse donc de Hervé Martini. Ce principe de santé publique s'appuie sur la prévention qui peut débuter dès l'école primaire. Il s'inscrit aussi dans une démarche d'aller vers. Les équipes se déplacent auprès des consommateurs avec des maraudes ou en proposant du matériel. C'est important pour créer un contact humain. Enfin, le troisième pilier de cette politique repose sur tout un dispositif d'accompagnement et de soins. L'objectif est de réduire les risques sur la santé et d'améliorer la qualité de vie des usagers, souvent en souffrance psychologique ou en détresse sociale. Le programme TAPAGE s'inscrit dans cette approche. On propose à des jeunes une alternative de travail, mais l'action est plus globale. Elle peut s'accompagner d'une aide sociale ou d'un suivi médico-psychologique. Ces dispositifs sont-ils efficaces ? Il y a un vrai consensus médical sur leur efficacité. Ils permettent de limiter les conséquences sanitaires, notamment en évitant la transmission des virus, et d'amener les gens vers l'insertion. Les études réalisées dans les salles de consommation à Vancouver, où les usagers peuvent consommer de la drogue en étant encadrés, note de la rédaction, ont montré l'utilité de ces lieux. Les programmes de dons de matériel et de substitution des produits injectés ou sniffés, développés dans les années 80, ont eux permis de diminuer la transmission du VIH. Le gouvernement français privilégie une politique répressive. Quelles autres solutions méritent d'être renforcées ? En France, on a un discours très sécuritaire. À l'occasion, on ne soutient pas le trafic des drogues, mais on estime qu'on ne peut pas avoir une politique basée que sur la répression. On aimerait que les haltes soient les haltes soins addiction, lieux de consommation et d'échange, se développent. Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue pourraient être plus soutenus. Il faudrait aussi renforcer la prévention avec des dispositifs comme les consultations jeunes consommateurs. Voilà, c'était des propos recueillis par Chloé Subilo. Article de Libération du 25 avril 2023. Eh bien, par quoi on pourrait compléter ce tour d'horizon de notre petite revue de presse ? Des petits conseils, un petit conseil donc voilà de personnes un petit conseil anti-validiste, voilà. C'est ça, alors on passe complètement à autre chose, évidemment. C'est si on veut créer un événement, hein, une manif ou festival ou événement ou atelier, etc. Eh bien, ce message s'adresse à nous. Événements et handicap, rendre nos luttes accessibles, petit mode d'emploi non exhaustif. Donc, ça a été produit par le 2 avril, par Aloua. Et toi, organisatrice de manif, festival, événement, atelier, ça y est, c'est le printemps, ça va pousser comme des carottes dans du sable. Ça ressort les tentes, ça prépare les godillons à danser, à se rencontrer, à festoyer ou à gueuler. Oui, mais les potes ont dit, tu y as pensé ? Alors voilà, c'est un peu un truc qu'on pense pas quand on n'est pas concerné, puis comme il n'y a pas beaucoup de concernés parce que c'est oublié, ben ça fait qu'il n'y a personne pour y penser, puis ben alors ça tourne en rond. Alors visibilisons nos événements pour les personnes handicapées physiques ou mentales. Pour ceci, rien de plus simple. Quelques conseils réalisables facilement en quelques ressources qui viennent ici. Pour le handicap physique, 1. La recherche d'un espace accessible. Bien vérifier avant l'événement que les WC le soient aussi et qu'il y ait des places de stationnement handicapées pas loin. Si événement extérieur, construire des WC, places de parking, bar, handi. Les rampes, ça se construit. Et penser aussi aux invisibles, donc des chaises pour les gens qui ne peuvent pas rester debout longtemps. Non, ce n'est pas... Ce n'est absolument pas OK pour une personne avec difficulté de marche de se faire porter s'il y a des marches. C'est relou, en fait. 2. Communiquer sur l'affiche, le programme, le site internet ou tout autre moyen de communication, l'accessibilité du lieu ou pas, avec des logos simples, noter une adresse mail ou numéro de téléphone pour que les gens puissent prendre les infos avant. Ils ne doivent pas demander aux potes des potes de potes si jamais la voie est dégagée ou bien juste ne pas venir parce que trop insécure. 3. Alors là, le top du top, c'est de créer carrément une commission accessibilité au sein de l'événement. Eh ouais! Comme ça, il y a des gens qui y pensent réellement en amont, qui font des recherches, ont un budget et sont valorisés, etc. comme tous les autres pôles, bar, restauration, concert, communication, etc. 4. Trouver des interprètes LSF. Eh oui, ça existe. 5. Être à l'heure et s'il y a du retard, prévenir au micro ou autre. Faire de la signalétique voyante. Ça évite la fatigue des personnes venues juste pour un truc et ne pouvant rester des heures car trop crevées. 6. Faire des événements dans des espaces chauffés ou prévenir si ce n'est pas le cas. 7. Si les gens dorment sur place, prévoir des espaces chauffés, de vrais lits, de vraies couvertures, des chambres solo, au calme, si besoin, ou communiquer, si ce n'est pas possible. Ensuite, deuxième partie, pour le handicap mental neurodivergence. Il y a plusieurs propositions ici. Créer des espaces sécurité, safe et calme, souvent appelé mad room ou chill room, en gros un espace dans l'événement où les gens qui en ont besoin peuvent juste se poser tranquillement et s'isoler. Avec des fauteuils agréables, un peu loin du bruit si possible, et avec pas trop de passages, et vérifier que ces espaces ne soient pas utilisés pour autre chose. 2. Gérer les gens alcoolisés et ou relous qui peuvent vraiment accentuer des crises ou des angoisses sociales. Ça peut être en créant une équipe d'écoutants ou d'écoutantes de gens visibles pendant l'événement grâce à un t-shirt, un écusson ou autre et qui sont mobiles et dispo et qui sont formés à accueillir la parole des gens qui se sentent pas bien pendant l'événement et proposer des solutions construites avec la personne qui se sent mal. 3. Être à l'heure et s'il y a du retard, prévenir au micro ou autre, faire de la signalétique voyante, ça évite les angoisses ou fatigues des personnes venues juste pour un truc et ne pouvant supporter toute une soirée ou une journée. 4. Être chaleureux ou chaleureuse et accueillant. Et oui, un sourire, ça fait parfois toute la diff. 7. Si des gens dorment sur place, prévoir des chambres solo au calme, si besoin, ou communiquer si ce n'est pas possible. Voilà, puis après il y a des ressources qu'on peut énumérer. Par exemple... le mini-mémo de la manif pas trop validiste, version courte, 2 pages. Le mémo de la manif pas trop validiste donc. Mais aussi, pourquoi avons-nous besoin d'un féminisme sourd? Un fanzine qui est le résultat d'une collaboration collective. Rédigé lors du camp féministe sourde organisé en août 2021 à la Garza Lorca dans l'Aveyron. Par l'Association des Sourds de Toulouse, et d'autres, bon, qu'on pourra peut-être évoquer dans d'autres émissions plus tard. Ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui et nous vous disons donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous inviterons le CRPA et son président André Bitton. Au revoir, salut.
Qui me prouva qu'elle lui ressemblait, car la petite fleur que j'ai cueillie avec la mère de Marion. La 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 la